Le journal est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et direction pour commencer les États-Unis. Là-bas, les protestations de Donald Trump n'y feront rien. C'est aujourd'hui en effet que les grands électeurs doivent confirmer la victoire de Joe Biden.
De nouvelles mesures destinées aussi, Thomas, à lutter contre la pandémie.
Oui, le Royaume-Uni qui a décidé d'étendre depuis ce matin sa campagne de tests massifs. Et puis en France, cette fois-ci, la même stratégie doit être mise en place aujourd'hui dans les villes du Havre et de Charleville-Mézières.
Toujours, s'agissant de la crise sanitaire et ses conséquences économiques, les restaurateurs sont appelés à manifester aujourd'hui à Paris.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, le chef triplement étoilé Régis Marcon.
Carlos Ghosn dans le collimateur du fisc français.
L'ancien patron de Renault risque un méga redressement en lien notamment avec son déménagement fiscal aux Pays-Bas, c'était en 2012. Enfin, après la mobilisation de samedi dernier au cours de laquelle 150 manifestants ont été interpellés dans la capitale, nous détaillerons la lettre ouverte à Emmanuel Macron que la coordination Stop Loi Sécurité Globale vient de publier. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la Grande Table des idées.
Une seconde partie de la Grande Table aujourd'hui avec un retour sur l'œuvre du maître du roman d'espionnage John le Carré, David Cornwell de son vrai nom, décédé en Cornouailles ce week-end à l'âge de 89 ans. Nous reviendrons sur sa vie mais aussi sur son œuvre. Ce sera avec nos invités dans une vingtaine de minutes.
Après 6 semaines de confusion entretenue par les coups de boutoir d'un président sortant obstiné dans son refus de reconnaître sa défaite, comme en témoigne d'ailleurs son tweet hier encore dénonçant sans preuve, je cite, l'élection la plus truquée de l'histoire américaine, le jour J est enfin arrivé aux États-Unis. Ce lundi, les grands électeurs sont en effet appelés à voter pour formaliser enfin le résultat du scrutin. Et même s'il est arrivé par le passé qu'une petite poignée de ces grands électeurs dérogent à la règle, cela n'a jamais changé jusqu'à présent l'issue de l'élection. Dit autrement, ce soir, la victoire de Joe Biden sera quasi officielle, quasi car en réalité cet épisode électoral ubuesque ne s'arrêtera pas en si mauvais chemin. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors in fine, toutes ces péripéties n'empêcheront pas Joe Biden d'être investi le 20 janvier prochain. Reste tout de même à savoir si ce scrutin et plus encore sans doute ce système d'élection indirecte ne laissera pas à l'avenir de profondes traces de nature, pourquoi pas, à fragiliser même la démocratie américaine.
Oui Thomas, c'est une vraie question, hein, parce que rappelons le principe, aux États-Unis, le système est donc indirect. Chaque État est représenté par un certain nombre de grands électeurs, proportionnel à sa population, et cela va de la Californie avec 55 grands électeurs à l'Alaska qui n'en compte que 3. Ce sont eux qui vont donc entériner ce vote. Aujourd'hui, ils vont se réunir État par État tout au long de la journée. Alors oui, vous l'avez dit, dans le passé, certains ont voté contre le choix des électeurs de leur État, mais ça n'a jamais eu de conséquences sur l'élection. Ça ne devrait pas être le cas d'ailleurs aujourd'hui. Reste encore qu'il y a une option pour le président sortant qui conteste toujours le résultat de l'élection. C'est le 6 janvier. Le Congrès doit entériner le vote de ce collège électoral. On le sait, plusieurs élus républicains pourraient alors déposer une motion de défiance. Chacune de ces péripéties électorales vient en fait défier le système politique américain. Elle renforce ceux qui sont convaincus de sa solidité, mais elles entretiennent aussi chez les autres le sentiment en fait que tout ce système est douteux. Et ce sont des questions qui agitaient déjà les électeurs pendant la campagne. Ils étaient très nombreux à s'interroger sur les limites de ce suffrage indirect, dont les résultats, on l'a vu par exemple pour l'élection de Donald Trump, sont très éloignés de ceux du vote populaire. Mais elles interrogent aussi ceux qui se questionnent sur les limites d'un système bipartisan qui étouffe ainsi l'éclosion d'une troisième voie.
Merci Claude Guibal. Toujours aux États-Unis, après des préparatifs express durant tout le week-end, c'est aujourd'hui que doit débuter une vaste campagne de vaccination. Des millions de doses conservées à moins 70 degrés dans la neige carbonique ont été envoyées hier aux quatre coins du pays, le plus touché, rappelons-le, par la pandémie, avec près de 300 000 morts et plus de 16 millions de cas. En Israël, là-bas, les premiers vaccins anti-coronavirus commandés au géant pharmaceutique Pfizer sont arrivés la semaine dernière. La campagne de vaccination devrait ainsi pouvoir commencer avant la fin du mois de décembre. En revanche, et pour prévenir une nouvelle vague de contamination, les autorités ont fini par renoncer à leur projet d'imposer pour 3 semaines un couvre-feu nocturne, une mesure assez largement critiquée par une partie de la population, mais aussi par certains experts en santé publique qui la jugent inefficace pour combattre la pandémie. Enfin, toujours en Israël, une start-up vient, elle, de lancer un super masque anti-Covid utilisable 1 an durant et qui, grâce à des nanoparticules insérées dans le tissu, tue plus de 99% des virus et bactéries qui entre en contact avec le textile. Notre correspondant Frédéric Mettezo s'est rendu sur le site d'exploitation de ce fameux masque au sein d'une ancienne PME anonyme et qui connaît aujourd'hui une croissance exponentielle au point de faire son entrée tout récemment à la bourse de Tel Aviv.
À l'origine, en 2013, Sonovia n'occupait qu'un étage d'un petit immeuble anonyme de la banlieue de Tel Aviv. Aujourd'hui, il lui en faut trois. Shai Herkovitz, le directeur.
Si tu étais venu ici il y a un an, tu m'aurais vu avec cinq stagiaires dont quatre n'étaient pas payés. Maintenant, ici, on est plus de 50 personnes dans cet immeuble et plus de 200 autres fabriquent les masques dans le nord d'Israël.
La start-up s'était lancée dans la sonication et elle a mis au point cette technique antibactérienne bactérienne en février dernier, juste quand le coronavirus est arrivé, raconte le directeur de recherche Aaron Garzon.
L'idée au départ, c'était de traiter des draps ou bien des blouses au niveau hospitalier. Mais on s'est plutôt penché sur les masques pour tirer profit de la situation. Sonication, c'est des ondes sonores qui ont la puissance d'incorporer de l'oxyde de zinc dans des tissus de façon plus durable. Au contact du virus avec les nanoparticules, il y a une réaction qui détruise de la bactérie ou du virus.
Le centre d'appel de vente à distance fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au centre d'expédition pour le monde entier, il y a des masques de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Le directeur sait bien qu'un jour, grâce au vaccin, le marché du masque se tassera, mais il a déjà des idées pour la suite.
Voici un tapis pour voitures. Toutes les voitures seront donc antivirus et antibactériens. On veut même vendre des hijabs dans les pays arabes.
Des hijabs antibactériens made in Israël, encore un effet inattendu du coronavirus. Les masques antibactériens sont efficaces un an à laver une fois par semaine.
Avec une émotion qu'on ne lui connaissait pas ou peu, Angela Merkel avait déjà évoqué la semaine dernière une phase décisive. Eh bien, c'est désormais chose faite pour tenter d'infléchir la croissance exponentielle des infections au coronavirus. Hier, la chancelière allemande a annoncé un reconfinement du pays pour 3 semaines. Concrètement, dès mercredi jusqu'au 10 janvier, tous les commerces non essentiels devront fermer. Les cours en présentiel seront interdits dans les écoles. Quant aux entreprises, elles seront vivement encouragées à imposer le télétravail autant de mesures globales qui s'appliqueront à l'ensemble du pays. Finis donc les confinements allégés ou régionalement adaptés ou quand l'Allemagne décide de se barricader à nouveau. Toujours s'agissant des stratégies destinées à lutter contre l'épidémie, le Royaume-Uni a lui lancé la semaine dernière sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental. Et puis avant cela, déjà, l'Angleterre avait par ailleurs initié une campagne de tests massifs à Liverpool. Une opération réussie au point que le gouvernement a décidé de l'étendre à partir d'aujourd'hui. C'est une correspondance à Londres signée Richard Place.
Détecter les malades asymptomatiques, voilà la principale utilité de ces tests massifs. Les autorités sanitaires anglaises parlent même d'un outil vital pour éviter la propagation du virus. À Liverpool, plus de 300 000 personnes ont pu être testées. Grâce notamment à cette opération dans la ville, le taux d'infection a été divisé par 4 en 2 mois. Les tests ont permis l'isolement de malades qui s'ignoraient, mais cette baisse spectaculaire du nombre de cas est aussi due au confinement et à la discipline de la population. La méthode utilisée pour tester est loin d'être infaillible puisque les scientifiques qui supervisent l'opération estiment que la moitié des personnes contaminées sont passées à travers les mailles du filet. Et puis une étude montre que les travailleurs les plus pauvres ont eu peur d'être positifs, d'être confinés et donc de ne plus pouvoir toucher leur salaire. Ils sont donc moins venus dans les centres de tests. Ce système n'est donc pas parfait, mais le gouvernement a décidé de l'étendre à 67 endroits différents à partir d'aujourd'hui dans tout le pays pour une campagne qui doit durer 1 mois et demi.
Direction la France à présent, et cette question, quand les restaurants pourront-ils rouvrir? La date du 20 janvier avait été annoncée, or à en croire le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce matin, il semble que rien ne soit acté pour le moment, de quoi aiguiser un peu plus encore, on l'imagine, la colère des restaurateurs appelés à manifester aujourd'hui à partir de 13h à Paris. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, Régis Marcon, 3 étoiles au guide Michelin, propriétaire du restaurant Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid dans la Haute-Loire. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour à tous.
Alors on imagine que cette nouvelle incertitude, donc portant sur la date du 20 janvier prochain, est un nouveau coup de massue pour votre profession.
Oui, ça se rajoute à toutes ces incertitudes de ces derniers jours, bien entendu. Mais avant tout, le rassemblement organisé par nos syndicats aujourd'hui On veut y associer aussi tous les autres corps de métier parce que nous ne sommes pas les seuls. Hein. Il y a la culture, forcément, les spectacles, l'événementiel, les salles de sport. Cette manifestation, avant tout, elle veut montrer que nous existons, bien sûr, et que nous sommes essentiels. C'est forcément, comme vous le disiez à l'instant, c'est un appel au gouvernement, parce que cette date du 20 janvier, on la sent se fondre un tout petit peu. Mais ce rassemblement, il concerne avant tout le français. Nous, c'est vraiment un appel. Nous, on ne veut pas se tromper d'adversaire. L'adversaire, c'est pas le gouvernement, c'est l'ennemi, hein, c'est le Covid. Hein. Et cette manifestation a pour but de demander à chaque citoyen, s'il vous plaît, aidez-nous à ouvrir. Soyez vigilants pendant ces fêtes. C'est ça qui est important. C'est vraiment un cri d'alarme. Parce que nous, on protège tout le monde en ce moment en étant fermé. Et on a besoin de chaque Français, chaque Française, pendant ces fêtes de Noël, pendant qu'ils se rassemblent, d'être vigilants. Parce que ils vont nous aider à ouvrir. Voilà, c'est vraiment un appel à tout le monde, en fait.
Monsieur Marcon, dans cette manifestation, cet après-midi à Paris, on trouvera donc des restaurateurs, mais aussi tous leurs salariés, toute la filière, les métiers de bouche, les blanchisseries. Parce qu'il faut bien comprendre, au fond, que c'est tout un écosystème, en quelque sorte, qui se retrouve aujourd'hui en très grande difficulté.
C'est non seulement la grande difficulté, même si c'est la deuxième vague, c'est une expérience de la première, mais c'est tout le doute qui s'installe. Comprenez bien que dans ce métier où on vit de voir du monde, d'accueillir du monde, c'est des journées intenses, voire captivantes, c'est ce qui fait un peu sel de nos métiers, se retrouver dans des locaux, dans des restaurants avec des salles vides, c'est compliqué forcément, donc il faut faire preuve d'optimisme, d'imagination. Mais moi, ma pensée, elle va avant tout. À qui ? D'abord, les petites entreprises, voire les entreprises elles-mêmes qui viennent de s'installer. Je crois que c'est à eux qu'il faut vraiment penser. On pense aussi, bien sûr, aux entreprises qui sont fragiles, forcément, et je pense qu'on aurait besoin. Il y a des aides gouvernementales, bien entendu, mais je pense que nous-mêmes, dans la profession, on peut faire un appel pour que ces entreprises soient tout simplement sauvées. C'est important pour notre patrimoine culinaire en France. Et ma deuxième pensée va à nos collaborateurs. C'est compliqué pour eux. Même la plupart reçoivent leur salaire, bien entendu, mais ces périodes de non-travail, ça crée des périodes de doute. Et nous avons besoin, nous, restaurateurs, d'être toujours, en contact avec eux pour pas qu'on les lâche. Parce que vous avez, dans ces collaborateurs, une partie aussi de stagiaires et surtout d'apprentis, que si on les lâche, on risque de les perdre. Et ça, c'est important dans un métier où nous avons tellement besoin de cuisiniers, de serveurs. Vous voyez, c'est un appel aussi aux restaurateurs. Ne lâchez pas vos collaborateurs.
Vous disiez à l'instant qu'il fallait faire preuve d'optimisme, d'imagination. Vous avez notamment déclaré que cette crise, c'était justement une occasion de se renouveler. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors, c'est un petit peu le mot, je dis pas la mode, mais que chacun peut dire. Forcément, dans ces périodes, on regarde un peu dans le rétroviseur, on dit qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et je dirais que c'est une opportunité. Pourquoi ? Tout simplement, déjà, il y a une jeunesse qui est avide d'apprendre, qui est enthousiaste, qui vit dans un milieu différent que nous, on a pu vivre avec les réseaux sociaux, etc., qui font preuve d'imagination incroyable. Moi, j'ai des collaborateurs, des jeunes, je suis étonné tous les jours. On a besoin, justement, de les encourager dans ce sens et donner du sens à nos métiers. Nos métiers, maintenant, je dis pas que ça va changer du jour au lendemain, c'est pas que du business. C'est donner, et ça l'a toujours été, c'est donner du bonheur aux gens, et c'est ça qui fait sens. Et cette crise Covid, je pense qu'elle nous a amené à réfléchir là-dessus. Donc, c'est créer de l'humain, créer de la collaboration dans les équipes, le travail, l'ambiance dans les équipes, dans un but commun, donner du bonheur aux gens et transformer les produits. Bien sûr, il y a toute la filière agricole qui est derrière, qui est en doute, forcément, elle l'était déjà bien avant le Covid. Et on a besoin aussi de les encourager. C'est pour ça que, moi, personnellement, je fais des plats emportés. Je veux vous avouer que on n'y gagnait pas grand-chose. Mais ça permet de créer de l'activité. Ça permet de garder du lien avec nos producteurs et avec nos collaborateurs aussi. Parce qu'on leur fait aussi, nos collaborateurs qui sont au chômage, on leur fait savoir ce que l'on fait. Et je pense que ça, c'est important. tout ce qui est solidarité en ce moment, bien entendu.
Et on terminera par ces mots. Merci Régis Marcon, 3 étoiles, je le rappelle, au guide Michelin d'avoir répondu à notre invitation. J'évoquais il y a quelque temps cette campagne donc de dépistage menée à Liverpool début novembre. Eh bien, c'est justement directement inspiré de cette campagne que la France a choisi à son tour de se lancer à partir d'aujourd'hui dans une stratégie de dépistage massif au Havre et à Charleville-Mézières. Sur la base du volontariat, les habitants de ces deux villes vont pouvoir bénéficier à partir d'aujourd'hui de tests antigéniques ou PCR. Deux autres territoires, d'ailleurs Roubaix et Saint-Étienne, devraient à leur tour tenter la même opération le mois prochain. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Alors tout le monde a l'air de considérer que c'est là une stratégie efficace pour lutter contre l'épidémie, à la condition toutefois, Tara, que les gens aillent effectivement se faire tester.
Oui, alors c'est effectivement l'une des questions. Combien de personnes iront se faire tester, hein? À Charleville-Mézières, le bassin de population est de 123 000 habitants, le double si on parle de toutes les Ardennes qui sont 3 fois plus touchées que...
Tara Schlegel, je pense que nous vous avons perdu. Alors, est-ce que nous allons retrouver Tara au téléphone? Nous évoquions donc cette stratégie du dépistage massif et cette opération qui est donc lancée à partir d'aujourd'hui, notamment dans les villes du Havre et de Charleville-Mézières. Nous n'avons toujours pas retrouvé Tara, peut-être un peu plus tard dans ce journal. Toujours s'agissant de cette crise sanitaire, rappelons qu'à partir de demain, les Français vont pouvoir de nouveau circuler sans attestation sur l'ensemble du territoire. La journée de mardi marquera en effet officiellement la fin du deuxième confinement pour laisser la place à un couvre-feu de 20h à 6h, sauf pour le réveillon de Noël. À l'approche justement de Noël, la Poste annonce pour sa part un mois de décembre historique avec jusqu'à 4 millions de colis livrés chaque jour. Sauf que derrière cette cadence soutenue, eh bien les syndicats s'inquiètent toujours du coronavirus. Sud PTT parle même aujourd'hui d'une omerta au sein de la Poste. Explication de Diane Berger.
En effet, en avril dernier, le syndicat avait déjà demandé un inventaire des cas de Covid-19 dans le groupe, sans résultat. Alors, cette fois, Sud PTT met en demeure la Poste, explique Nicolas Galépides, le secrétaire général.
On est quand même un des services publics qui est resté très très actif pendant toute l'épidémie. Aujourd'hui, les vecteurs de maladie, on voudrait pas que ça soit d'un côté que les postières et les postiers servent à transmettre la maladie, et deuxièmement, savoir aussi au niveau santé, sécurité, hygiène au sein de la boîte, où est-ce qu'on en est.
Une inquiétude que partage la CGT. Valérie Manvie est membre du bureau fédéral et elle l'a constaté, elle aussi. Depuis le mois de mars, elle n'a reçu aucun chiffre, aucun bilan sur le nombre de cas de coronavirus dans le groupe.
On se dit que peut-être le virus continue de se propager alors qu'on devrait tout mettre en œuvre pour protéger les salariés et leur santé. En fait, la première préoccupation de l'entreprise, ça devrait être, et là on voit bien qu'avec l'explosion du colis, la principale préoccupation de l'entreprise, c'est la rentabilité et faire du chiffre, il faut livrer les colis. Ça n'empêche qu'il y a des cas et qu'on n'en a pas la visibilité.
Contactée, la Poste n'a pas souhaité commenter les affirmations des syndicats.
Signe que l'économie française mettra plus de temps à retrouver son niveau d'avant-crise qu'anticipé jusqu'alors. La Banque de France estime que le produit intérieur brut rebondira de 5% l'an prochain, ou quand la convalescence s'annonce encore plus longue que prévu. Carlos Ghosn a-t-il fraudé le fisc français? Les services fiscaux français sont en train d'éplucher la situation passée de l'ancien patron de Renault, en l'occurrence Marévienneau. Le fisc tente de déterminer si l'ancien magnat de l'automobile a artificiellement quitté la France en 2012 pour les Pays-Bas et donc s'il a pratiqué de l'évasion fiscale.
C'est en 2001 que les Pays-Bas ont hébergé la structure Renault-Nissan BV pour chapeauter la gouvernance de l'alliance Renault-Nissan. Mais c'est en 2012 que le patron de Renault a décidé d'en faire son lieu de résidence fiscale. Cela lui permettait alors de bénéficier d'une fiscalité allégée pour ses émoluments et d'éviter de payer l'impôt sur la fortune dû sur l'ensemble de ses avoirs dans le monde. Rien d'illégal dans cette domiciliation à cette époque, à condition, et c'est ce sur quoi les services de Bercy enquête, que cette domiciliation soit effective, autrement dit que Carlos Ghosn ait bien passé plus de temps aux Pays-Bas qu'en France. Difficile d'évaluer le lieu de résidence d'un patron conduit à se déplacer sans cesse d'un pays à un autre, mais d'après les informations obtenues par Libération via des proches de Carlos Ghosn, les enquêteurs des impôts considèrent que la France était le centre de son activité et de sa vie familiale, car 1, Carlos Ghosn disposait d'un appartement où sa famille était installée en permanence à Paris et que 2, l'essentiel de son temps professionnel était en France et pas au Japon et aux Pays-Bas. Ni le ministre des Finances ce matin sur France Info, ni la direction chargée de ces enquêtes à Bercy n'ont confirmé ces informations. Néanmoins, il y a bien eu en février une saisie conservatoire d'actions Renault appartenant à Carlos Ghosn et la mise provisoire sous hypothèque d'un de ses appartements parisien, ce qui semble accréditer l'idée qu'il y a bien des négociations entre l'ancien patron de Renault-Nissan et l'administration fiscale française.
Les discussions promettent d'être animées. Emmanuel Macron rencontrera en fin d'après-midi les membres de la Convention citoyenne pour le climat, après que le président a lui-même indiqué que face à cette crise sanitaire, il faudrait temporiser sur certaines propositions. Eh bien, les soupçons de détricotage se sont accentués. La portée, voire la mise en application de certaines mesures emblématiques pour lutter contre le réchauffement climatique sont en effet encore dans la balance, en particulier la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi une limitation de la publicité. Enfin, le chef de l'État pourrait également préciser ses intentions sur un éventuel référendum. Je ne peux pas laisser dire qu'on réduit les libertés en France. Voilà ce qu'avait affirmé Emmanuel Macron lors de son interview aux médias en ligne Brut, tout en prônant l'apaisement après les vives polémiques sur les violences policières. Or, au lendemain de la nouvelle manifestation contre la très controversée proposition de loi Sécurité globale à Paris, plusieurs associations et syndicats ont dénoncé hier des arrestations arbitraires, interpellations en masse, charges infondées des forces de l'ordre dans le cortège, garde à vue à la chaîne pour toutes ces associations dont ATTAC, le Syndicat National des Journalistes ou bien encore la Ligue des Droits de l'Homme. La liste des dérives inadmissibles est longue. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Lors de cette manifestation de samedi dernier à Paris, donc qui a réuni près de 26 500 personnes partout en France, selon le ministère de l'Intérieur, 150 manifestants ont été interpellés dans la capitale, Anne.
Oui, et parmi ces près de 150 manifestants, d'après le parquet de Paris, 6 seront jugés en comparution immédiate ce lundi. Un autre a accepté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par ailleurs, 30 personnes étaient toujours en garde à vue hier soir. Une cinquantaine de cas présumés problématiques, donc, sur 150 interpellations. Cela signifie que la plupart de ces interpellations étaient de nature préventive. Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer liberté chez Amnesty International, n'est pas étonnée.
On comprend très bien que c'est très difficile de gérer un rassemblement où il y a quelques éléments minoritaires qui peuvent commettre des dégâts, parce qu'il y a quand même une majorité de manifestants pacifiques. La règle, c'est que le fait qu'il y ait une minorité qui commette des violences ne doit pas priver la majorité de son droit de manifester. Il faut que le gouvernement trouve des solutions. Là, en l'occurrence, les solutions trouvées, elles affectent des manifestants pacifiques.
Parmi les solutions trouvées, insatisfaisantes selon elle, l'utilisation de la tactique du bond offensif par les forces de l'ordre. Il s'agit d'interpeller tout manifestant soupçonné de vouloir constituer un bloc. Les blocs qui, selon les policiers, constituent les petits groupes très mobiles qui se greffent sur les cortèges pour détruire des commerces et en découdre avec les forces de l'ordre. Mais cette tactique n'est pas sans danger pour les manifestants pacifistes.
Et puis c'est donc dans ce contexte, Anne, que la coordination Stop Loi Sécurité Globale, laquelle regroupe une centaine d'organisations représentant les journalistes, professionnels de la presse, de l'image, mais aussi des avocats et autres défenseurs des libertés publiques, ont publié une lettre ouverte ce matin à Emmanuel Macron.
Oui, coordination dont fait aussi partie Amnesty International. Il s'agit d'une tribune qui vient juste de sortir sur le site internet du journal Libération. Les signataires reviennent sur la création de la commission chargée de proposer des mesures alternatives aux articles problématiques de la loi Sécurité globale, ainsi que sur l'annonce d'un Beauvau de la sécurité, des solutions qui ne sont pas satisfaisantes selon eux. Ils parlent toujours de dérives autoritaires du gouvernement et ils demandent maintenant directement à Emmanuel Macron de les recevoir et de retirer les articles 21, 22, 24 de la proposition de loi, ainsi que le nouveau schéma du maintien de l'ordre.
Merci Anne Fauquemberg. Pour tous ceux qui ne se seraient pas encore lassés, l'interminable feuilleton du Brexit va se poursuivre, contrairement à ce qu'avaient laissé entendre les deux parties qui s'étaient données jusqu'à hier soir pour trouver un accord. Les discussions se tiendront jusqu'au bout. La saga va donc continuer. En revanche, et cette fois-ci, nul besoin de fixer une date butoir, puisque l'ultime épisode interviendra, quoi qu'il en soit, le 31 décembre à minuit, date à laquelle le Royaume-Uni sera définitivement sorti du marché unique et de l'union douanière. frontières européennes. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, le plus souvent couvert avec de faibles pluies, notamment sur la Bretagne, la Normandie et du nord de l'Aquitaine vers les Ardennes. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Brice Garcia et à 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Larabi pour le prochain journal de la rédaction.